Bonjour. Qui sont les djihadistes occidentaux qui abandonnent du jour au lendemain toute leur vie pour aller combattre dans les sables de Syrie ou d'ailleurs? Pourquoi partent-ils? Pourquoi sont-ils prêts à aller jusqu'au sacrifice de leur propre vie? Policiers, journalistes, sociologues, mais aussi romanciers et cinéastes tentent depuis quelques années de démêler les motivations sociales, des motivations religieuses ou des raisons psychologiques. Alors, nous essaierons de cerner dans cette émission ce savoir en constitution et aussi comment ce savoir se construit. Et nous le ferons, Anne-Sophie, avec quatre invités.
Oui, avec vous tout d'abord, Raphaël Laugier, bonjour. Vous êtes sociologue, philosophe, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous dirigez l'Observatoire du religieux et vous publiez cette semaine un ouvrage intitulé « La guerre des civilisations n'aura pas lieu ». On verra la couverture, peut-être pas là tout de suite, mais au moins dans l'émission.
Ça sent bien.
Ouais, vous inquiétez pas, on la verra.
On fait tout pour la promo dans cette émission.
Farouk Attig, à mes côtés, vous êtes journaliste. Spécialiste des réseaux djihadistes. Vous êtes l'auteur d'un documentaire diffusé sur le site spicy.com, réalisé avec Yacine Benrabia, avec qui vous avez passé 9 jours cet été à Alep, en Syrie, aux côtés d'un groupe de djihadistes.
Alep notamment.
Oui, Alep et les alentours d'Alep. Donc, aux côtés d'un groupe de djihadistes qui se battent contre l'armée de Bachar el-Assad. Nous y reviendrons dans l'émission. Et puis, entre vous deux, Mathieu Suc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Vous êtes passé par Le Parisien, François, Le Monde.
Et maintenant Mediapart.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un sur le grand banditisme et même sur le footballeur Franck Ribéry.
Tout à fait.
Et vous publiez aujourd'hui sur le site de Mediapart, donc pour lequel vous êtes journaliste, une longue enquête sur Farid Ben Nietou, le mentor, l'un des frères Kouachi. Et en direct des États-Unis, bonjour Julien Swodo.
Bonjour.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes auteur d'une fiction qui a été publiée en mars 2014, qui s'intitule Dawa, et qui raconte de manière étrangement prémonitoire 6 attentats djihadistes simultanés dans Paris, un vendredi 13. Ça, c'est un thème que vous allez reprendre pour votre deuxième roman qui vient de paraître, qui s'appelle Le Français, et qui raconte l'histoire d'un jeune Normand qui devient terroriste.
Voilà, donc sociologue, journaliste, écrivain, comment appréhende-t-il cette réalité de ces djihadistes qui partent du jour au lendemain? Alors, on va peut-être commencer, Anne-Sophie, anniversaire oblige, par la figure des Kouachi, extrêmement médiatisée cette semaine.
Et oui, les frères Kouachi, les auteurs du carnage dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier de l'an dernier. Alors, qui sont-ils? Quels sont leurs profils? Et bien, justement, France 3 leur a consacré un documentaire qui a été diffusé lundi dernier, qui était intitulé « Attentat, les visages de la terreur » et qui mettait notamment en perspective l'enfant difficile de Saïd et Chérif Kouachi. On regarde.
Des petits Parisiens, fils d'un couple de modestes immigrés algériens. À la maison, la vie est ponctuée par la violence conjugale. En 1991, leur père meurt d'un cancer. Et l'oncle Mohamed vient aider sa sœur débordée par ses 4 enfants.
La maman était dans une situation terrible, elle avait plus d'argent, elle empruntait de gauche et de droite, alors comme elle pouvait pas rembourser, elle évitait de parler aux gens parce que elle leur devait des sous, donc elle se repliait de plus en plus sur sa misère et sur elle-même.
Ma sœur, il nous jure qu'elle est morte son mari, elle sait ni écrire, ni lire, ni elle a d'argent. Et là, l'assistante, elle est rentrée, elle veut placer Saïd et Chérif. Ma sœur, elle pleure tous les soirs.
3 mois après le placement en foyer de Saïd et Chérif Kouachi, leur mère, désespérée, est retrouvée morte dans l'appartement. Nous sommes en janvier 1995 et les Kouachi sont orphelins. Le frère aîné, Saïd, a 14 ans. Chérif, le cadet, 12 ans.
Alors, dans ce même reportage, on découvrait également en longueur les images d'un court-métrage qui a déjà été diffusé tout au long de l'année. Mais là, le documentaire de François revient longuement dessus. Il a été tourné en 2004 et c'est un court-métrage dans lequel Chérif Kouachi jouait le rôle d'un rappeur en galère.
Oh là 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 là! Elle sème le blé pendant que moi je galère. A NPEAC dit qu'on est tous les mêmes destinataires. Donc faut trouver un producteur avant qu'on tombe à terre. Aïe 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 aïe.
Ce rappeur en galère, c'est Chérif Kouachi en 2004. À 22 ans, il fait l'acteur dans ce court-métrage associatif.
Action.
Tu sais qui habite là ?
Quoi ?
Tu sais pas que c'est qui habite là ?
Sur les différentes prises du tournage, le futur tueur de Charlie Hebdo révèle un caractère tenace et positif.
Quoi ?
C'est ça, ouais.
Mais viens, on y va !
Viens, on y va. Allez, casse-toi, c'est un mytho.
Eh, mais sérieux, mais viens ! Moi. Moi, je vois grand, je vois comme lui. voilà, je...
c'est pas grave.
Alors, un caractère tenace et positif, dit le commentaire. Et c'est vrai qu'il émane du personnage tel qu'on le voit dans ces images, une espèce de joie de vivre. Voilà. Alors, évidemment, il joue un rappeur en galère, mais en même temps, on n'a pas l'impression de quelqu'un qui soit désocialisé. Enfin, on a l'impression de quelqu'un qui est en voie d'insertion. On ne sait pas très bien où, mais enfin...
Ça dépend ce qu'on appelle la désocialisation, parce que, en fait, le point commun qui existe... Enfin, le travail du sociologue, c'est de chercher des points communs, c'est-à-dire des régularités, finalement. C'est uniquement ça, c'est un travail assez banal. Et la régularité qui existe entre... les djihadistes, mais il ne faut pas tout confondre, pas les djihadistes qui partent forcément en Syrie, tous ceux qui partent en Syrie, qui sont très nombreux, beaucoup plus nombreux, mais les djihadistes qui ont commis des attentats sur le sol français, c'est le désir d'être des caïds, et en général d'être des caïds déchus. Donc le côté positif...
Le désir d'être des caïds déchus.
Non, le désir d'être des caïds, et dans un deuxième temps, d'avoir raté, de ne pas avoir réussi à accomplir la chose. Donc là, il est en période où... il sent qu'il veut devenir quelque chose. Il veut devenir rappeur, il veut devenir ceci, il veut devenir cela. Donc il est encore... tout est potentiel, l'avenir est ouvert. Et puis, progressivement, l'horizon va se resserrer, va se refermer. Puis à mesure que l'horizon se referme, bah, qu'est-ce qui reste ? Il va finir par rester. Comment devenir un héros ? Comment être un caïd ? Bah, il va rester Daesh.
C'est ça. Mais vous diriez que c'est la motivation essentielle, cette espèce de désir alors, vous dites être caïd, mais en gros, désir de pouvoir, de notoriété.
Ouais, c'est pas seulement ça. C'est que ce que les psychologues appellent l'individuation, c'est la construction de soi comme étant un individu unitaire. C'est un rapport à la virilité. Et donc, c'est un rapport aussi au père. On a vu qu'ils sont justement... il y a l'absence du père. Et dans tous les profils, soit c'est une absence physique, réelle, du père, soit c'est une absence symbolique, même, des parents. Et donc, il y a une difficulté à s'identifier à des figures fortes, héroïques. Quand on est enfant, on a besoin de s'identifier à des figures fortes, héroïques, pour exister.
C'est le désir d'exister, d'être reconnu par la grande communauté, parce que dans les foyers personnels... on n'a pas ça, on n'a pas de modèle qui permet de...
C'est ça le point commun, c'est pas l'islam.
Juste pour préciser par rapport à l'image qu'on vient de voir, ce qui est intéressant, c'est que Chérif Kouachi a déjà commencé à se radicaliser, c'est-à-dire qu'il fréquente la mosquée
en 2004,
à Dawa.
Au moment du court-métrage.
Avant, en fait, parce que c'est pas forcément... Là, on a l'exemple en ce moment avec les jeunes qui se radicalisent en 5 minutes. Chérif Kouachi, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'il va aller voir... assister aux prêches radicaux à la mosquée à Dawa en 2003. En 2004, il s'en éloigne, il va se remettre à fumer, à boire, essayer de se tourner vers le rap, faire ce court-métrage. Et janvier 2005, il a son billet d'avion et on le cueille alors qu'il embarque pour l'Irak. Et il voulait même commettre des attentats sur des juifs. Alors, peut-être pas des attentats où il y aurait eu mort d'homme, mais il avait déjà en tête des actions antisémites. Donc ça se fait aussi par étage. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, il y a aussi quelque chose qui me semble important qu'on voit tant chez Koulibaly que chez les Kouachi, c'est qu'à chaque fois, on est sur des familles nombreuses. Certes, le contexte social peut expliquer, mais dans ces deux familles-là, tous les autres enfants s'en sont tirés tout à fait normalement, ont des vies totalement normales, ne se sont pas tournés, sont pour la plupart musulmans, mais n'ont pas du tout versé dans l'islam radical. Et sur Chérif, Saïd et Hamedi Koulibaly, on a des cas, même dans leur jeunesse, d'extrême violence. Donc il y a quand même des choses qui sont du ressort de l'individu, de la personnalité même, et qui font qu'il y a un caractère qui va vriller et qui va partir. Encore une fois, leurs frères et sœurs sont les contre-exemples.
Je vous vois approuver, mais ça veut dire que le sociologue que vous êtes approuve le fait que ce qui est peut-être premier, c'est l'individu même, au-delà de son milieu, son parcours.
Le sociologue se doit de reconnaître les limites de sa science. Or, il se trouve que là, on a une dimension qui est une dimension sociale, qui a ses limites, mais il y a une dimension psychologique extrêmement forte. C'est pour ça que j'ai parlé d'individuation, qui est un terme de psychologie et pas de sociologie. Et que dans la même famille, il peut y avoir des individus qui sont à risque. Sur la question de l'islam et de la mosquée, moi, c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il va tenter tenter d'aller à la mosquée pour voir s'il peut devenir quelqu'un. Ça ne marche pas forcément.
C'est sur les prêches de Benyettou, enfin on y reviendra, qui sont dans la rue à côté de la mosquée. J'ai peut-être été. Il ne va pas suivre les cours. Voilà.
C'est pour ça que moi je tiens à distinguer. Je dis, il faut distinguer à l'intérieur même de ce qu'on appelle le djihadisme, les djihadistes qui se font sauter ici et ceux qui partent, qui ne sont pas les mêmes profils. En réalité, c'est un profil beaucoup plus large, ceux qui partent. Et il faut distinguer les djihadistes et les fondamentalistes. Ça, je l'ai martelé pendant des mois. Parce qu'aujourd'hui, on a un nouveau fondamentalisme qui est un fondamentalisme qui ressemble un peu à du fondamentalisme chez, on pourrait, une sorte d'amish. Des gens qui veulent ressembler, qui veulent vivre comme s'ils étaient à l'époque du prophète, qui s'habillent d'une certaine manière, avec des tuniques soit blanches, soit noires, pour ressembler à des bédouins du VIe siècle. Et eux, ils sont absolument anti-djihadistes parce qu'ils trouvent ça trop moderne. Ils se mettent à l'arabe classique, ils font toute une série de choses. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, pour la citoyenneté, pour toute une série de choses. Mais par contre, ils sont complètement opposés.
Mais on est bien d'accord qu'il ne faut pas tirer de ce que vous dites la conclusion que la religion ne jouerait aucun rôle dans leur démarche. Bien d'accord.
Moi, ma question, c'est quand
C'est la conclusion qu'on pourrait rapidement tirer.
Non, mais par contre, que la religion ensuite se superpose à ce désir d'être des caïds, justement, d'être des héros, et que la religion leur offre cette possibilité.
Mais c'est second.
C'est juste une carte d'identité, la religion. Voilà.
Vous êtes d'accord là-dessus, tous les trois. La religion, ça vient par-dessus.
Mais c'est aussi parce que l'islam a une telle image antisociale que ça devient désirable pour eux de se vêtir de l'islam pour faire les individus antisociaux.
Je rajouterais, enfin moi je pense, et c'est quelque chose que l'histoire du terrorisme nous montre, parce que, alors, mettons, on appelle ça djihadisme ou tout ça, c'est du terrorisme. Il y a un appauvrissement, c'est-à-dire que quand on voit par exemple les profils des gens qui vont taper en 95 le métro parisien, on a des gens qui sont très structurés, qui ont une pensée, qui, vis-à-vis de l'islam radical, ont quelque chose. Vous prenez Chérif Kouachi, il a chez lui toute une bibliothèque, il a beaucoup, il consulte, il lit énormément, ça aide aussi. Après, ça vole déjà deux crans moins haut. Et vous prenez
C'est-à-dire que sa bibliothèque, il l'a lue.
Il l'a, mais
ou pas.
Il la lit.
Il n'y a pas les mêmes livres.
C'est-à-dire, quand vous entendez des gens comme Jamel Begal, même Smeinaït Belkacem, un des cerveaux des attentats de 95, ils sont quand même, et d'ailleurs, ils agissent un peu comme des mentors sur les Kouachi et tout ça. Kouachi va recracher un savoir, certes très important, mais il fait que le recracher, il maîtrise pas tout. Et ceux actuels, ceux du 13 novembre, c'est quand même des gens qui sont radicalisés en 5 minutes. Il y a même des blagues au sein de la communauté djihadiste, c'est qu'on dit que les djihadistes, ils connaissent une seule sourate parce qu'après, ils n'ont pas
quand ils en connaissent une.
Là comme ailleurs, le niveau baisse.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on a toujours eu. Regardez le nationalisme corse. Je ne suis pas sûr que ceux qui faisaient péter des bombes il y a 5 ans aient exactement le même niveau que ceux qui faisaient péter des bombes il y a 10 ans ou 15 ans.
C'est important de le dire, parce que du point de vue de la politique qui est mise en place aujourd'hui par le gouvernement, c'est, on est dans on va dire, on va interdire l'arabe dans certaines mosquées, on va... C'est absolument ridicule, inefficace, fondé justement sur le fantasme, moi, ce que j'appelle la guerre de civilisation. Alors que ça ne correspond pas à la réalité, puisque ces individus, ils n'ont pas accès à l'arabe, ils ne connaissent pas l'arabe. Dans les années 90, c'était des gens qui étaient en même temps fondamentalistes réellement. Ils voulaient revenir au fondement, ils faisaient de l'arabe, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un décrochage entre les deux.
Les Kouachi ne parlaient pas arabe ?
Non, absolument pas.
Quasiment pas. Et ceux du 13 novembre, pour autant qu'on le sache, ne parlaient pas arabe non plus.
Encore moins, sauf celui qui était syrien, qui était... Mais sinon, aucun accès. Aucun d'entre eux n'est passé par une intensification progressive de la pratique religieuse, qui leur a fait glisser, ou par une formation théologique de fond.
C'est la différence historique sur deux phénomènes, Al-Qaïda, dans les années 90, et l'État islamique, maintenant.
Tout à fait, c'est la grande différence.
Est-ce que le romancier que vous êtes, Julien Ciodo, vient d'apprendre quelque chose, là, sur ce plateau, ou est-ce que ça correspond à la perception que vous aviez du profil de ces personnages ?
Non, ça correspond à la perception que j'ai depuis un long moment déjà. Je crois qu'il faut être très prudent avec l'idée de radicalisation, avec le discours sur la radicalisation. On a tendance à toujours chercher à isoler tel ou tel facteur, les uns, la religion, les autres, la culture, d'autres, ce qu'on appelle l'excuse sociale, la revanche coloniale. Je crois qu'en fait, aucun de ces facteurs n'est primordial, mais tous coagule dans une espèce de combustion identitaire qui se passe effectivement à l'intérieur des individus qui sont en perte de repères, qui peuvent être à un moment effectivement désocialisés et qui sont en recherche d'héroïsme, de figures paternelles éventuellement. Donc il faut être très prudent. Ouais.
Enfin, vous comprenez quand même, faut être très prudent, mais vous comprenez quand même qu'on essaye de comprendre, quoi. Enfin, je veux dire, et qu'on essaye d'isoler des facteurs si on peut en isoler.
Je crois que par contre,
bien sûr, je pense que pour, alors moi, mon travail de romancier, c'est d'essayer de comprendre, mais pas en expliquant et pas en démontrant. Moi, j'essaye de me mettre à la place de mes personnages, et je ne suis pas du tout tenu en tant que romancier, en tant qu'écrivain, à la même exigence de scientificité que Raphaël Dieugé, par exemple, pour le sociologue, ou que d'authenticité pour un journaliste ou un documentariste.
Non, heureusement.
Je raconte en me mettant à la place.
Heureusement que vous n'êtes pas tenu. D'ailleurs, vous dites que vous avez changé d'avis, hein, dans une interview à Marianne, entre votre premier et votre deuxième roman, donc entre Dawa et Un Français. Vous dites, oui, j'ai évolué. La fatalité sociale me paraît beaucoup plus relative aujourd'hui que cet étiolement individuel, par nature, mystérieux et difficile à élucider.
Oui, c'est la différence principale, c'est vrai, entre mon premier roman où j'étais plus dans une perspective balzacienne et sociologique de raconter les maux de la société française à travers effectivement le paramètre social en paramètre principal, et le second, le français, qui est raconté à la première personne, c'est donc un changement narratif très important par rapport au premier, où je me mets dans la tête d'un individu totalement ordinaire, qui n'a aucun penchant a priori à la violence, ni même à la criminalité.
Alors c'est un jeune Normand, c'est un jeune Normand qui bidouille un peu dans l'informatique, un peu paumé, qui habite Évreux, ce qui ne le remplit pas de joie. Et alors évidemment, j'ai essayé de discerner, d'isoler dans votre texte le moment où vous décrivez le déclic, puisqu'il y a bien un moment où vous allez devoir parler du déclic sur ce sujet-là. Alors, je lis le passage, je ne sais pas si on peut dire que c'est le déclic, mais bon, donc il est paumé, il ne sait pas quoi faire, il est amoureux d'une fille qui ne veut pas de lui, ça ne va pas très fort pour lui. J'ai ouvert la fenêtre, un petit avion agricole volait très bas au-dessus du plateau, la blancheur du ciel m'a fait mal aux yeux, et au même moment, quelque chose s'est défait en moi. J'avais perdu mon endurance et ma patience, c'est comme si quelqu'un était mort, comme si je n'étais plus d'ici. En regardant l'horizon blême, ratatiné par l'hiver, j'ai compris que je ne saurais plus jamais me contenter d'aussi peu.
Oui, alors je ne sais pas si j'emploierais le mot déclic, justement, c'est ça que moi je voudrais relativiser dans la notion de radicalisation.
Il y a le plus jamais quand même, plus jamais.
Oui, plus jamais, c'est vrai. Il y a une notion de quelque chose qui se termine, ouais. Mais c'est plutôt une descente, c'est comme une descente par palier, pour prendre la métaphore de la plongée sous-marine. Je pense qu'on n'est pas dans un itinéraire qui est celui d'un processus linéaire et unidimensionnel. Comme on expliquait tout à l'heure, il y a différents paramètres, différents facteurs qui interviennent et qui peuvent éventuellement prendre plus d'importance à tel ou tel moment du parcours de l'individu, mais tout ça se passe dans le secret de son intimité, et c'est pour ça que c'est très difficile à comprendre
qui vous incombe de percer ce secret de son intimité. Votre boulot à lui, c'est votre boulot à vous, c'est de l'inventer.
Oui,
c'est de le réinventer.
Et c'est pour ça que, par rapport à Dawa, à mon approche, à l'approche que j'avais retenue pour Dawa, j'ai choisi de raconter l'histoire de ce personnage à la première personne.
Un commentaire ?
Non, mais enfin, je partage assez l'idée d'effectivement, il n'y a pas un seul critère. On a des tendances, on a des lignes, mais effectivement, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les frères Cauchy et leur famille.
En gros, il n'y a rien à comprendre.
C'est ce qui rend le travail des services de renseignement français particulièrement difficile. Parce que comment voulez-vous, au départ, ils partaient sur la perspective que finalement, ils se ressemblent tous. Donc il y a une espèce de calcul scientifique à faire, on leur met une fichesse et puis on va tous les retrouver et puis après on les surveille de loin. Finalement ça fonctionne pas du tout ça. Donc et ils le reconnaissent eux-mêmes, les grands patrons du renseignement français le reconnaissent, on a été complètement dépassé par rapport à ce qui s'est produit à deux reprises
Puisqu'on parle d'ailleurs des grands patrons, puisqu'on parle d'ailleurs des grands patrons du renseignement qui sont aussi une source d'information, une question incidente, il est arrivé à ces grands patrons du renseignement de vous solliciter les uns ou les autres avec le savoir qui est le vôtre, en venant vous dire au secours, nous on n'y comprend rien, au secours les journalistes, au secours le sociologue, au secours le romancier, est-ce que vous pouvez nous aider? C'est arrivé?
Moi j'ai été sollicité dès janvier. J'étais le premier auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des filières et individus djihadistes. Après, j'ai fait le tour, ce qu'on pourrait appeler, en quelque sorte, le tour des popotes, des ministères, etc. On m'a trimballé un peu partout. J'avais expliqué, dès le départ, un certain nombre de choses. C'est que le processus de radicalisation, ce n'était pas du tout celui qu'ils avaient dans leur fantasme de guerre des civilisations, des cultures, des mosquées, etc. Que les individus pouvaient passer éventuellement par les mosquées, mais c'était beaucoup plus complexe, qu'il fallait distinguer les fondamentalistes et ces espèces de nouveaux voyous que nous, on a vu apparaître dès 2005-2006. Qui commençait à s'habiller en habit kaki, un peu guerrier, ne parlant pas du tout arabe, en général, pratiquant très peu la prière et ces choses-là, mais avec un bandeau, voilà, Akbar, et etc. On a vu qu'il y avait un processus qui était en train de s'effectuer de cette manière-là, que c'était plus à rechercher dans des groupes qui auraient pu être des punks ou des skinheads dans les années 70, mais ils n'y ont pas cru parce qu'ils étaient dans cette idée que ça vient forcément d'un processus unique, univoque, etc.
Et quand bien même vous auraient-ils cru, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'ailleurs?
Moi j'avais proposé un mode d'investigation, j'avais proposé de mettre en place, et à plusieurs reprises, et on m'a dit c'est très intéressant, on va peut-être le faire, on va peut-être, c'était de mettre en place ce que j'appelais l'Observatoire National des Identités, parce que je dis c'est un problème d'identité à la fois sociale, psychologique, il faut faire intervenir des islamologues, des anthropologues, qui se réunissent à l'échelle nationale, et comme ça on va voir comment ça se passe sur les différents terrains sociaux, sur Internet, parce que le problème des renseignements généraux, c'est qu'ils vont aller lire sur Internet, mais ils ne savent pas quoi lire, parce qu'Internet c'est infini, donc il faut des gens qui sachent quoi lire, comment le relier aux différents terrains sociaux, et là, peut-être qu'on n'aurait pas évité le 13 novembre, mais on se serait donné les moyens de viser là où ça se passe. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on continue dans la même direction, c'est-à-dire ce que nous propose le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, en gros, ça a raté, on va employer la même stratégie, mais en faisant plus. Ce qui est, à mon sens, vraiment irresponsable.
Alors, pour terminer avec les Kouachi, on a évoqué la figure de Farid Benyettou, qui apparaissait aussi, Anne-Sophie, dans le documentaire de France 3 dont vous parliez.
Oui, dans ce documentaire, ils ont rencontré également Farid Benyettou, qui est surnommé par les médias, vous le rappelez dans votre article, l'émir de la filière des buts de Chaumont. Il a été condamné en 2008 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il est connu pour être le menteur des frères Kouachi, on l'a dit. Il a d'ailleurs fréquenté Chérif en prison. Il en est sorti de prison en 2011. Il est aujourd'hui infirmier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Non, il n'est plus là.
Il n'est plus là. Bon,
il est infirmier.
Infirmier, voilà. Et il a accepté donc de se livrer devant les caméras de France 3. On l'écoute.
En janvier 2005, à Paris, le cadet des frères Kouachi est arrêté dans la salle d'attente d'un vol en partance pour l'Irak. La police vient de démanteler la filière des buts de Chaumont. Une dizaine de copains des cités du 19e, prêts à mourir en Irak. À la tête du réseau, un prédicateur musulman de 21 ans, Farid Benyettou.
Il les endoctrinait en dehors des mosquées, en dehors des lieux publics, souvent chez lui, à domicile ou d'une façon très discrète, et les convainquait donc de la pertinence du djihad et surtout, chose assez nouvelle, du shahid, c'est-à-dire à partir pour commettre des actions kamikazes.
12 ans plus tard, Farid Benyettou prétend avoir changé de vie. Aujourd'hui infirmier, l'ancien prédicateur de la filière des buts de Chaumont a réfléchi plusieurs semaines avant d'accepter de raconter son rôle auprès des frères Saïd et Chérif Kouachi.
Je les ai vraiment connus à partir du moment où Chérif, parce que c'était pas le cas pour son frère, avait déjà le projet de se rendre en Irak. Il avait déjà les contacts, il avait déjà peut-être même, je crois qu'il avait déjà son billet. Concernant ceux qui avaient pris la décision d'y aller, ce qui m'avait encouragé à l'époque à les soutenir, c'était cette idée que l'intervention américaine en Irak était injuste, injustifiée, basée sur des mensonges. Et donc, quelque part, c'était une cause qui était que je considérais comme étant légitime.
Voilà. Alors, en même temps, ça confirme ce qu'on disait au début de l'émission. En même temps, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque ce que dit Benyettou de la motivation des Kouachi, ce n'est pas qu'ils veulent devenir des caïds. Enfin, je veux dire, il parle bien d'une motivation qui est avant tout et premièrement politique. C'est-à-dire, ils veulent aller en Irak.
Pour le coup, je pense que Benyettou a cette idée-là, c'est-à-dire qu'il a une pensée quand même assez structurée, non sans contradiction, mais quand même très structurée. Je pense que Chérif Kouachi, il a envie d'être quelqu'un. Il a envie d'être rappeur, il a envie d'être footballeur, il a envie d'être djihadiste. C'est la limite.
Enfin, pas tout à fait la même génération.
On ne sait pas. On n'a pas rencontré ni les uns ni les autres.
Il faut encore distinguer ceux qui sont dans l'action, qui commettent, et les idéologues qui sont derrière. Effectivement, la différence avec les attentats de 2001 et ce qui existait Al-Qaïda des années 90, c'est que ceux qui commettaient les attentats étaient aussi des intellectuels. C'était aussi des gens qui avaient été formés dans l'université. Aujourd'hui, il y a une disjonction entre, d'un côté, des individus qui sont toujours des idéologues, qui ont la motivation que vous indiquez, et puis ceux qui sont la chair à canon, en quelque sorte, et qui, eux, ne sont pas endoctrinés à proprement parler, mais ils sont embrigadés par rapport à leur désir d'héroïsme.
Avant de revenir sur Benyettou, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une différence fondamentale entre Al-Qaïda et l'État islamique, mais qui n'est même pas intrinsèque aux deux organisations. C'est aussi une question d'époque. Il y a 10 ans, pour aller en Afghanistan, c'était une odyssée. Il fallait avoir des contacts dans différents pays pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est pour ça que, regardez, en 2000, 2001, 2003, on a 4, 5 Français. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est très, très peu. C'est très compliqué d'y aller. Donc, il faut avoir un véritable parcours. Il faut avoir montré patte blanche. Maintenant, la Syrie, si on décide d'y partir tous les 5 dans 5 minutes, on va en Turquie, on va à Gaziantep. J'écorche peut-être les noms, excusez-moi. On y est demain ou ce soir.
C'est devenu plus compliqué.
Là, ça se complique un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que...
C'est le reporter de terrain qui vous parle.
Les chiffres sont là. Enfin, regardez, il y a combien de Français qui sont partis en Afghanistan et combien
en Syrie. En Syrie, c'est peut-être plus compliqué.
En Syrie,
c'est encore,
maintenant
encore peut-être un peu plus compliqué, voilà. Mais, si on en croit les résidus. Benyettou, donc, vous publiez ce matin, là, ça, il y a quelques heures, dans Mediapart, alors un entretien tout à fait saisissant avec lui. Alors que vous l'avez rencontré pendant 6 heures, et ce qui transpire avant tout de cet entretien, c'est son désir d'auto-justification, c'est-à-dire qu'il a été, comme on dit, le mentor des Kouachi, et il s'en remet pas.
Une certaine forme de culpabilité. Alors, lui dit, parce qu'il le dit d'ailleurs dans le reportage télé qu'on vient de voir, il dit, ils avaient déjà l'idée, enfin en tout cas Chérif Kouachi ou les autres djihadistes qui étaient venus le voir à l'époque, ils avaient déjà l'idée de partir en Irak, et en gros, moi, je leur ai servi de caution. Intellectuelle, religieuse, et je partageais leur idée parce qu'il y avait un combat, machin. Voilà. Donc lui, il dit, moi, je suis pas responsable. En gros, la petite graine, c'est pas moi qui la mets. Je n'ai fait que la fertiliser. Là où sa culpabilité, je reprends ses propos à lui, est vraiment patente, c'est dans le fait qu'il se dit, mais c'était mes amis. Pendant 5-10 ans, je les ai côtoyés. On parlait religion et j'ai pas vu venir 2015, j'ai pas vu venir Charlie Hebdo et je n'ai pas pu empêcher. Et en même temps, qu'est-ce que j'aurais pu empêcher ?
Quand est-ce qu'il perd le contact avec eux ?
C'est 2013-2014, il les voit pratiquement plus. Saïd, il le voit plus. Chérif, c'est une fois tous les 6 mois. Il y a un ou deux appels. Pour Saïd, il y a l'enfant en bas âge de Saïd Kouachi qui, des fois, appelle, enfin joue avec le portable de son père et l'appelle, donc il se rappelle. C'est comme ça qu'il a une quinzaine de contacts avec Saïd Kouachi dans l'année 2014, mais qui sont des contacts qui durent 15 secondes. Quoi.
Et quand il dit, Benyettou, je ne l'ai pas vu venir, vous, ça vous semble crédible ?
Oui, parce que...
On est toujours au cœur de la question de ce fameux déclic, là.
Et puis aussi de la taquia, est-ce qu'on peut être manipulé ? C'est l'art de la dissimulation, qui est plutôt une doctrine normalement chiite, mais qui va être adaptée pour les djihadistes. Sur Benyettou.
On se la pose à deux niveaux, la question de la taquia, excusez-moi. Oui. On se la pose, est-ce que les Kouachi ont dissimulé leur évolution à Benyettou ? Et est-ce que Benyettou, aujourd'hui, mène pas en bateau, vous ?
Ça, je peux tout à fait répondre. Déjà parce que je suis assez sceptique et pessimiste sur les phénomènes de déradicalisation, pour l'avoir parlé avec plein d'avocats et avoir un avis très différent par rapport au devenir de leurs clients. Sur Benyettou, il y a la rencontre, il y a ce qu'il me raconte, mais après, nous sommes journalistes, on n'est pas là pour prendre tout pour argent comptant. Il y a aussi notre travail de vérification. J'ai pu consulter les archives pénitentiaires. Il me dit, c'est à partir d'Osny, où je suis le seul islamiste c'est la maison d'arrêt du Val d'Oise, excusez-moi. Il va faire plusieurs maisons d'arrêt, et sa fin de peine, il l'a fait à Osny, et il explique, il dit, je suis le seul islamiste, personne ne me connaît, tout le monde est sympa avec moi. Et je m'inscris à des ateliers. Moi, j'avais arrêté en seconde. Je ne baignais que dans un milieu fondamentaliste. Je faisais mes prêches, j'avais mes copains fondamentalistes. Et là, en tôle, je m'inscris, je fais de la sculpture, je fais du théâtre, j'apprends l'espagnol et je m'ouvre.
Ce qui va totalement à rebours de l'idée reçue générale, qui est qu'en prison, on se radicalise. Lui,
Lui,
c'est déradicalisé en prison.
Et il explique même que quand Sabri Essid, qui est le beau-frère, enfin le demi-frère par alliance de Mohamed Merah, va le rejoindre en tôle, ça va le gonfler d'avoir un autre islamiste, parce que Essid, qui est complètement doctriné, lui dit « Mais attends, t'as pas serré la main là du Corse ou du Basque ?» Et il me raconte, il me dit « Mais moi, le Corse, je l'aimais bien, il m'avait filé sa PlayStation. » Bon, ça peut faire sourire, c'est du détail, mais c'est aussi déjà une ouverture aux autres.
Pardonnez-moi, mais c'est un argument qui peut aussi être sujet à caution, parce qu'après tout, il va voir les services de renseignement français, on lit dans votre article, et on peut se demander aussi s'il n'est pas en recherche de... il a beaucoup de choses à se faire reprocher, il veut se faire pardonner pas mal de choses aussi, et puis il est détesté par ses anciens copains. Donc pourquoi ne pas se dire aussi, après tout, certains disent que c'est peut-être un indice aussi.
Anticipe sur ce qui pourrait lui être reproché.
Mais ça, c'est ce que j'ai cru,
j'ai fait par avance.
Alors, pour vous expliquer, parce que c'est un article qui vient de loin, c'est que au lendemain de Charlie Hebdo, quand j'ai connaissance de la venue de Farid Benyettou, donc pour expliquer aux téléspectateurs que en fait c'est le lendemain de Charlie, donc on est le jeudi, il va frapper à la porte de la DGSI et les mecs sont là, attention, il est super dangereux. Enfin, il y a les policiers à l'accueil qui disaient, et il y a un moment de panique. Il y a une policière municipale qui vient de se faire tuer le matin, et là on a quelqu'un proche des Kouachi qui vient sonner à la porte.
Donc il est plaqué au mur, il est menotté, il est fouillé.
Il n'a pas de drapeau noir dans les poches.
Non. Et je trouve ça une scène extraordinaire et un très bon début de papier. Et il y a l'audition. Et je me dis, mais il est balance. Effectivement, c'est de l'opportunisme, de la lâche. Enfin, j'imagine un personnage très lâche. Je voulais faire éventuellement son portrait, puis l'actu nous déborde, je l'abandonne. Et au cours de l'année, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai des gens qui débute Chaumont, un petit trafiquant de drogue du quartier qui me dit, mais il est tricard, il longe les murs. Vous avez entendu aussi ces échos-là. Et j'ai un islamiste dont je tairai le nom, mais qui est assez proche, on va dire, de cette mouvance-là, quelqu'un qui m'en parle et qui me raconte aussi certaines choses. Et je me dis, mais il est vraiment détesté de tous. Je vais le voir, il me raconte, on en a déjà parlé. Et après, encore une fois, il y a ces témoignages-là de gens qui disent, mais il a vrillé dans le sens inverse, si on peut dire. Il y a aussi, je l'évoque dans le papier, l'audition de Aïcha Kouachi, qui est la sœur des deux frères Kouachi, et qui raconte, et elle est entendue dans le temps des attentats, et ça vient dans la conversation, on ne lui parle même pas de Farid Benyettou, mais à un moment, quand elle décrit le relationnel des Kouachi, elle dit, mais à partir de tel moment... avec Farid, ça n'allait pas parce qu'il contredisait mon frère et en fait il le contredit sur le djihad. Donc nous avons
déjà. Benyettou est opposé à l'idée d'un djihad sur le territoire français.
Sur le territoire français et elle dit, et il prend un même du djihad tout court. À cette époque-là, donc on est en 2014, et elle dit, et il pose des lapins à Shérif, il prend ses distances et Shérif, ça l'énerve, il se sent trahi. Donc ce que nous raconte.
C'est un fondamentaliste cohérent, parce que c'est ça que je disais. Les fondamentalistes en général sont opposés au djihad.
Alors lui était pour à la base, mais j'ai repris aussi. Parce que le passé aussi peut nous renseigner. J'ai repris le dossier des buts de Chaumont, donc le dossier originel de 2005, où il est le prêcheur. Où on voit, et je parle, c'est pas Farid Benyettou qui le dit au juge, c'est ceux qui sont revenus d'Irak ou qui étaient sur le point de partir, les amis de Shérif Kouachi, qui disent effectivement, Farid Benyettou prenait et les incitait à aller faire le djihad contre l'invasion américaine qu'il considérait illégitime. Oui, il a parlé, quoi qu'il en dise lui, de Shahid et d'attentat donc suicide, bien sûr, contre l'armée, mais là, nous sommes dans une démarche terroriste vis-à-vis d'une invasion, enfin, je ne le cautionne pas, mais il y a une démarche cohérente, et tout le monde dit, sauf Chérif Kouachi, parce que ça ne lui plaît pas qu'on le taxe d'antisémitisme, tout le monde dit que quand il était interrogé, Benyettou, par ses élèves, sur le fait de commettre des attentats en France, il disait « mais c'est pas cohérent, ce n'est pas une terre de djihad, vous êtes français, et non, on n'a pas à taper sur les juifs ». Donc, quelque part, son radicalisme de l'époque,
de
Benyettou, est cohérent avec ce qu'il est devenu maintenant, même s'il a complètement renié tout le reste et ses fréquentations. Il y a quand même une logique dans son parcours. Et il a grandi en âge.
Il était très jeune à l'époque. Hein.
Oui, il avait 23 ans, 25 ans. Et parce qu'il est intellectuellement…
Avec ce visage incroyable où on lui donne, non pas 23, mais 16 ans. Quoi.
Voilà, et il est issu d'une famille où il y a de fondamentalistes, où il y a son beau-frère qui a été suspecté de vouloir commettre un des attentats, vous savez, lors de la Coupe du Monde 98. Et donc, ça lui donne une aura.
Vous voyez, une réaction
Oui, bah, moi, on voit bien qu'il y a une transformation, puisqu'on parle de visage, du visage du djihadisme. Et il y a une transformation dans la demande, c'est-à-dire les individus qui sont sur le territoire, qui sont susceptibles de commettre des attentats. Mais il y a une grande transformation aussi quant à l'offre. Une autre des différences, je pense, entre Al-Qaïda et Daesh, qui explique le succès de Daesh, c'est que Daesh s'inscrit dans ce que j'appelle, moi, dans mon bouquin, le marché global de la terreur. Un marché qui fonctionne sur les frustrations qui peuvent être localisées un peu partout sur le globe. Et en fait, ça serait comme une charte esthétique, en quelque sorte, ou presque une charte hôtelière. S'il y a des individus qui, à un moment donné, se trouvent en Namibie, au Mali, et qui se sentent frustrés, ont désir de vengeance, s'ils veulent assurer la publicité et l'efficacité de leur cause, il suffit qu'ils correspondent à la charte esthétique, et immédiatement, ils vont être relayés par Daesh, et ça va donner le sentiment que Daesh se démultiplie, donc ça les arrange. En même temps, eux, ils correspondent à la charte et ils deviennent plus efficaces. C'est une logique, ça, qui est quand même imparable et extrêmement difficile à combattre, d'où cette espèce de mise en scène globale de la cruauté avec les vidéos, ces mises en scène, etc.
Ce qui est sûr, c'est que la politique de recrutement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est la politique de recrutement d'Al-Qaïda, c'est dans les années 90 et même au début des années 2000, était beaucoup plus stricte, n'entrait pas qui voulait dans l'organisation.
Exactement. Enfin,
Julien Ciodo, ces figures réelles dont on vient de parler, ces figures, alors les Kouachi n'étaient pas connus, n'avaient pas été médiatisés avant les attentats de Charlie Hebdo, mais en revanche Benyettou l'avait été. Dès le début des années 2000, on parlait de la filière des buts de Chaumont et sa figure médiatique avait émergé, on l'avait vu dans des reportages télévisés. C'est des figures dont vous vous êtes inspiré dans votre travail d'écrivain, c'est-à-dire vous êtes allé puiser dans les reportages télé, vous êtes allé puiser dans les articles de journaux, éventuellement même dans les dossiers judiciaires, dans les PV, ou alors pas du tout ?
La réponse est pas du tout. En fait, je suis comme tout le monde. Je m'informe, je lis les journaux, j'écoute, je regarde, mais il n'y a pas eu de démarche volontaire, de recherche pour m'inspirer de telle ou telle personne réelle.
Alors, comment vous faites ?
Alors, ma démarche a été très différente pour Dawa, le premier, et Le Français, mon deuxième roman. Pour Dawa, qui est un livre qui s'est écrit sur plusieurs années, qui devait d'ailleurs être au début une série télévisée, à laquelle j'ai commencé à réfléchir dans la foulée des émeutes de Clichy-sous-Bois, donc vous voyez, il y a plus d'une dizaine d'années. La série ne s'étant pas faite, j'ai décidé de transformer cette histoire en roman. Pour Dawa, dont l'idée était de raconter la France et Paris par métonymie des deux côtés du périph, pour aller vite, je me suis inspiré en fait de deux choses, à la fois des souvenirs encore frais de mon passage sur les bancs de Sciences Po, pour ce qui était des personnages appartenant à la hiérarchie policière, à l'administration.
Pour l'élite, ça, c'est pour la peinture de l'élite.
Ça, c'est pour la peinture de l'élite, mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre la base ou ce qui se passe dans les soutes du bateau sans comprendre ce qui se passe sur le pont. Donc, c'était très important pour moi de peindre un organisme et pas des univers déconnectés. Et puis, pour la peinture de ce qui se passe de l'autre côté du périph, bon, tout ça est très schématique, mais on se comprend. J'ai fait, quand j'étais adolescent, puis un petit peu plus tard, à la vingtaine d'années, beaucoup de foot et de boxe en amateur et en région parisienne. Pour aller vite, disons qu'on ne pratique pas ces deux sports, mais particulièrement la boxe, dans les beaux quartiers. Donc je me suis beaucoup inspiré, pour le coup, de mes souvenirs personnels, de mes rencontres, de ce que j'avais pu entendre, de ce que j'avais pu voir dans la pratique de ces deux sports. Ça c'est pour Dawa, qui encore une fois a été un processus d'écriture de beaucoup plus longue haleine. Pour le français, que j'ai écrit en 3 mois il y a un an maintenant, je me suis complètement, là pour le coup il y a eu une démarche volontaire de ma part de me couper complètement du monde, parce que j'avais la hantise d'être traversé par ces flux d'images, par ces flux d'informations continues, et de ne pas pouvoir trouver la temporalité de mon récit. D'autant plus que, à peu près à l'époque où je me suis mis à ce roman, à l'écriture de ce roman, on a entendu parler de Maxime Auchard, le djihadiste normand. Bah pas oui. Très loin d'Evreux, qui s'est retrouvé dans la peau d'un bourreau en Syrie.
Bah, on est obligé de penser à lui quand on lit votre livre, le français, parce fatalement. Que franchement, le petit Normand ordinaire qui se retrouve décapiteur en Syrie, on se dit, voilà, bon, bah, il a pris Maxime Auchard et il a transposé.
Oui, et ça, je n'ai aucun contrôle sur l'horizon de perception, l'horizon d'attente du lecteur. Et d'ailleurs, c'est
mais
pas
c'est
du
pas
tout
vrai. Vous nous dites que ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas inspiré de Maxime Auchard.
Non, pas du tout. Comme tout le monde, à la même époque, quand j'ai découvert son histoire, j'ai lu sur lui, donc il y a sûrement eu une influence inconsciente ou à la marge sur moi, mais il n'y a pas eu, encore une fois, d'intention spécifique de ma part pour aller me documenter sur son histoire personnelle, ses motivations, son entourage.
Mais enfin, on a quand même du mal à vous croire. Vous dites, non mais attendez, excusez-moi, vous dites j'ai essayé de m'isoler, etc. Donc quoi, pendant le processus d'écriture de votre livre, vous avez coupé Internet, vous avez coupé la télé, oui ?
C'est beaucoup plus facile à faire pour moi, dans la mesure où j'habite de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis.
Excusez-moi, à Philadelphie, on a Internet et on a les chaînes françaises.
Oui. Je ne sais pas si mes collègues journalistes et sociologues et reporters diront la même chose, mais moi j'écris beaucoup plus facilement quand je coupe le signal du Wi-Fi sur mon ordinateur, pour que la tentation ne soit pas là.
À tout le monde.
Quand on essaye de faire des recherches en profondeur, à moyen terme, et qu'on a un flux d'informations en permanence, on n'arrive plus à avoir de recul, de réflexion.
Vous coupez tous le Wi-Fi quand vous écrivez ?
Ah, moi, tout le temps.
Même le journal. Ah non, il y a une hésitation.
Justement, ces derniers temps, je me dis que je perds énormément de temps parce que justement, j'ai Internet encore en branché.
C'est très intéressant. C'est très intéressant sur la question de la temporalité.
Ah, mais sur l'écriture, moi, j'ai un casque, de la musique. Et
à partir du moment où on essaye d'avoir une production un peu pérenne, où on fait un livre, où on fait un article de longue durée, on a besoin, dites-vous tous les quatre, de se déconnecter de la temporalité d'Internet.
Et surtout sur ces questions. En fait, parce qu'elles sont tellement émotionnelles, il y a tellement une sorte de canon en permanence qui nous envoie des informations, qui vous font réagir, parce qu'on est effectivement pris aussi dans la trame de ce qui se passe, que moi je crois que la seule manière d'avoir un minimum de recul, c'est de faire ça. Ouais.
Et puis il y a aussi quelque chose par rapport au livre de Julien qui tienne à leur nature. C'est qu'il y en a un, il écrit l'histoire, si je puis dire, sur le français. C'est aussi on est sur un phénomène où, encore une fois, on a dit c'est très varié et ça peut être n'importe qui. Donc je pense que le premier livre demandait de la documentation un minimum. Encore une fois, il y a qu'à prendre tous les exemples d'enfants. On en a tous fait des articles, on en a tous lu. Vous avez des profils complètement varié, de zones géographiques, ça part de Quimper comme de Chalon.
C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Et quand Julien Suaudeau parle de clubs sportifs, il parle de boxe, ouais. Il parle de foot, est-ce que c'est quelque chose que les uns ou les autres vous avez retrouvé dans la biographie des djihadistes que vous avez pu croiser, le rôle socialisateur ou désocialisateur, j'en sais rien, des clubs sportifs qu'ils ont fréquentés, est-ce que...
Le sport, forcément, parce qu'ils ne sont pas reconnus par la société qui est censée les protéger, les éduquer, et les faire avancer, donc dans quoi on se retourne en général, le sport, mais c'est pas systématique. pas quelque chose qui est une espèce de truc d'ADN du djihadiste.
Alors, il y a toujours des activités, justement, le rap, le sport, un certain nombre de choses, pour essayer de s'identifier à une figure forte dans une activité donnée, que ce soit la boxe ou que ce soit autre chose.
Le foot est dans la société un dénominateur commun, donc on le retrouve souvent, mais ce n'est pas marquant. Et sur la boxe, j'ai travaillé très longtemps sur le grand banditisme. Le grand banditisme, je pense qu'il y aurait une histoire de la boxe à faire à travers le prisme du grand banditisme, parce que ça, on le retrouvait beaucoup il y a 10 ans, il y a 15 ans. Sur les djihadistes, j'avoue que oui, on en a vu un ou deux, mais ça ne me semble pas...
Sur la boxe, précisément, Julien Ciodo, Anne-Sophie, vous a signalé une vidéo.
Non, c'est Julien qui m'a signalé une vidéo quand on a discuté pour préparer cette émission. Une vidéo que vous diffusez actuellement vos élèves de terminale, puisque vous enseignez le français aux États-Unis. Et je vous avouerai que cette vidéo m'a beaucoup plu. Vous posez une question à l'issue de cette vidéo, mais on va d'abord la regarder.
Je vais en mettre des claques, hein? Je vais en mettre des claques, là. Tu lèves tes mains, autrement, c'est la mienne que tu prends.
Si.
Hein? Moi, je frappe bien, toi. Je lève la main, moi, regarde. Je lève la main. Petit Oulmi.
Ça va comme ça, ça va?
Redresse-toi. Avoir les mains devant. Oh. Hein? T'as pas pris, Michel? Et ramène tes mains
à se serrer.
C'est ça, Manuel. On ne fait rien. Ça fait combien?
Deux.
Alors, il y en a encore un autre à faire.
Un quart.
Bon, non. Prends pour un vieux, toi.
Non,
c'était. Oh, ça va.
Hein, t'as vu, on les tactait, espèce de grand bâtard. Ce soir, je bouffe du nègre, mon pote. T'as vu? Ça va? Bien sûr. Putain, le bâtard. Voilà. Alors, allez, grand. T'as peur, hein? Comme il faut, jeune homme.
Pas non plus.
Putain, vous.
Oh, c'est bien.
Ah ouais. Au boulot.
J'ai bien,
ça va. Il faut faire le chat, hein. Allez. Bien ma gueule. C'est bien, ma petite gueule. Lève tes mains. C'est bien, fiston. Tu m'as fait vraiment plaisir. Après. Un beau combat.
Alors, c'est une très très belle vidéo. Quel est le rapport avec le sujet?
Le rapport, bon, c'est ce que je disais sur la boxe. Le personnage qu'on voit, parce que c'est vraiment un personnage de la boxe parisienne, s'appelle Jean Roche. C'est l'entraîneur de la salle de boxe du 19e arrondissement. On parlait des buts de Chaumont tout à l'heure. Et. Le rapport, c'est que c'est un papa. L'entraîneur des boxeurs, c'est une figure paternelle. C'est une figure d'autorité aussi, on le voit. Ça peut être éventuellement perçu comme une figure paternaliste, mais c'est avant tout quelqu'un qui donne de l'amour à ses enfants. Il les appelle fistons et les boxeurs appellent souvent leur entraîneur leur papa ou leur deuxième papa. Donc il y a vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, cette recherche d'être quelqu'un, cette recherche de discipline aussi, et la boxe fournit ça, elle fournit l'adrénaline, la discipline, et elle fournit une communauté aussi, parce que les liens qu'on tisse dans le cadre d'un club de boxe sont très forts par la nature même du sport, plus forts peut-être même que ceux qu'on peut avoir dans le cadre d'un sport collectif comme le foot. Pour avoir pratiqué les deux, il me semble que ces liens identitaires et communautaires sont plus forts à la boxe, et on a aussi la possibilité par le biais du sparring ou par le biais ensuite des combats quand on progresse et quand on peut se mesurer à d'autres dans le cadre d'une compétition, la possibilité de devenir, alors je ne sais pas si je dirais un héros, mais de devenir un exemple et d'être tout à coup sous les feux de la rampe et reconnu pour ses propres capacités et son travail. Et ça me paraît quelque chose de très important dans une société où on est en perte de repères et de sens, et que cette perte de repères peut expliquer pour certains profils le processus de radicalisation.
En fait, Yogi, est-ce que vous venez d'entendre faire un pont quelque part avec vos propres travaux ?
Oui, parce qu'on dit, on dit souvent qu'on a entendu à plusieurs reprises, on a mis en accusation le communautarisme. Alors que là, en réalité, justement, la boxe constitue une sorte de communauté avec une logique familiale, etc. Et ça court-circuite le processus du djihadisme, parce que c'est des gens qui cherchent une communauté. Et il y avait une hypothèse, une réflexion qui était menée à un moment par un certain nombre de collègues sociologues sur pourquoi est-ce qu'à Marseille, il y a moins ce phénomène de djihadisme. Parce qu'à Marseille, il y a énormément de communautés. C'est très communautariste, Marseille, effectivement. Donc, pour pouvoir sortir d'une communauté à Marseille, c'est beaucoup plus difficile que dans la région parisienne où on est plus facilement désocialisé. Et quand on est désocialisé, on n'appartient ni à telle ou telle ou telle autre communauté, bah, on peut plus facilement tomber dans le djihadisme. Donc, le djihadisme, c'est plus de la désocialisation que du communautarisme.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant, mais... Enfin, marrant. Encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais sur les terroristes, on en a beaucoup qui, à un moment ou à un autre, enfin, jeunes plutôt, pardon, ont essayé de s'intégrer, intégrer l'armée ou la Légion. Mera, mais j'ai un trou là, je ne sais plus sur les Kouachi, mais en tout cas, il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai travaillé. Ça revient très régulièrement et ils n'ont pas réussi à se faire accepter. C'est souvent des gens qui sont en recherche de cadre. Effectivement, et d'autorité, et l'islam radical tel qu'elle est présentée à l'heure actuelle par l'État islamique offre un cadre très facile. C'est, enfin, on leur dit venez comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de connaître le truc, on va vous inquiéter pas.
Ils cherchent la facilité parce que
on va vous encadrer. Et ça, ce que
devenir des fondamentalistes. Pour certains, c'est trop difficile, parce qu'il faut passer par l'arabe, par
l'arabe. C'est ça, sur l'apprentissage du Coran.
Alors, sur la manière dont les uns et les autres vous travaillez sur ce sujet difficile, on commence un peu à l'entrevoir. Hein. Vous, Mathieu Suc, par des entretiens avec les protagonistes, l'accès au dossier judiciaire. Vous, Farouk Attig, en allant sur le terrain, on verra tout à l'heure un extrait de votre film. Julien, on commence à comprendre. C'est vrai que s'agissant des sociologues, c'est plus compliqué de comprendre d'où vous tirez votre savoir sur le sujet. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, à la télé, on ne vous l'a pas envoyé dire, Anne-Sophie.
Oui, c'était le 4 décembre, oui, c'était le 4 décembre dernier, vous allez vous en souvenir. Vous étiez invité sur le plateau de Natacha Polony, sur Paris Première. Alors, vous aviez l'air plutôt en désaccord avec un autre des invités qui s'appelle Pierre Réave, qui est lui journaliste et réalisateur, qui s'est spécialisé plutôt dans le conflit israélo-arabe et dans la psychopathologie, dit-il, terroriste, pardon. Ouais. Et il avait l'air de remettre en doute vos sources. On l'écoute.
C'est son droit. Ce que je veux dire, par rapport à ces nouveaux djihadistes, il ne s'agit pas de dédouaner l'islam, de faire quoi que ce soit par rapport à ça, dire c'est religieux, pas religieux. Il suffit juste de dire quelque chose qui est réel aujourd'hui, c'est que ce sont des individus qui sautent directement dans le djihad. Et une fois qu'ils ont sauté dans le djihad et qui sont passés en général par des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam en particulier, en gros leur profil c'est de vouloir être des caïds, ils sont passés par la drogue, des caïds de la drogue, des caïds de ceci, des caïds de cela, laissez-moi finir, ils ont sauté dans le djihad, une fois qu'ils sont dans le djihad, ils ont besoin de prendre une posture fondamentaliste, et là, le niveau religieux intervient. Mais il intervient après, il n'intervient pas...
Patrick,
si je peux me permettre une petite chose.
Juste, allez-y.
Vous en avez rencontré combien, des terroristes ?
Mais ça veut dire quoi, ce que vous
dites ?
Non,
mais c'est important.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, ce qu'on a regardé,
ce qui est important, c'est de les écouter. C'est de les écouter parler.
Alors, la question qui tue, vous en avez rencontré combien ? Vous ne répondez pas, là, dans l'émission.
Je ne réponds pas pour une raison simple, c'est que quand on fait des enquêtes sur des milieux extrêmement larges, on n'est pas policier pour dire que tel individu qui nous semble potentiellement pouvant glisser dans le terrorisme est un terroriste. Je ne suis pas là pour le juger. Donc, il y a deux manières de procéder.
Alors, comment vous faites-vous ?
D'abord, au passage, celui qui m'a posé la question, il n'en a rencontré aucun. D'accord, qui est dans le profil en question, il travaille sur Israël-Palestine et qui compare des choses qui ne sont pas comparables.
Il n'est pas là, on parle de vous.
Mais quand même.
Comment vous faites-vous ? C'est quoi votre méthode ?
Alors, déjà, nous, on travaille, puisqu'on nous dit, on travaille sur, naïvement, on nous dit, ce sont les milieux fondamentalistes. Et bien, donc les milieux fondamentalistes, là, on les connaît. Donc on va dans les mosquées, on travaille avec des gens.
Mais vous qui avez ont... comment ? Avec un carnet de notes ?
Bien sûr.
Un visage découvert, voilà, bonjour.
Un visage tout à fait découvert, mais par contre, sur d'autres, on en a d'autres manières. Par exemple, quand on travaille sur des jeunes femmes qui portent, qui se sont mises à partir des années 2006-2007, qu'on a vu mettre le voile intégral, on a commencé à les interroger, à leur demander quelles étaient leurs raisons, en faisant confiance à leur raison. Et puis ensuite, progressivement, on se dit peut-être qu'elles peuvent nous mentir, ne pas être conscientes de quelles sont réellement leurs raisons. Et à ce moment-là, on se rapproche et on met des chercheurs qui vivent avec elles, qui se deviennent amis avec elles, qui sont proches d'elles.
On met des chercheurs qui
non, c'est-à-dire qu'on a des étudiants.
On met des chercheurs non, qui vivent
qu'on
avec elles.
C'est-à-dire qu'on place des individus. C'est-à-dire qu'on cherche des on cherche des indications, on cherche des informations. Donc, par exemple, avec un petit groupe de mes étudiants-chercheurs, je dis, voilà, on va travailler pendant 2 mois sur, à un moment donné, on va travailler sur le salafisme, par exemple. Je dis, bon, pour travailler sur le salafisme, on est obligé de donner le sentiment, quelque part, qu'on est en accord à un certain niveau. Donc, il y a quelque chose de putassier, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'information. Donc,
mais
il faut.
C'est-à-dire que, concrètement, pour travailler avec des femmes voilées, vous avez pris des enseignantes, enfin des chercheuses, des étudiantes.
Concrètement, je ne peux pas dire exactement comment on a procédé, mais en tout cas, on peut dire que c'était.
Pourquoi ?
Ben, parce que ça serait remettre en cause ceux qui ont travaillé sur ces sujets, mais des gens qui peuvent par exemple, des jeunes femmes qui peuvent, par exemple, qui sont chercheuses, qui peuvent porter le voile intégral, vivre avec elles, pour les rassurer, pour discuter. Oui, bien sûr.
Mais donc, ils sont allés s'installer dans leur quartier, habiter dans des immeubles proches.
C'est pas qu'ils s'installent dans leur quartier, mais en tout cas, qu'ils vont les rencontrer régulièrement en adoptant.
Mais en portant elles-mêmes.
Exactement, en adoptant des modalités d'existence, des modalités esthétiques, et donc progressivement.
Mais ça veut dire que les jeunes femmes sur lesquelles vous alliez travailler savaient que la personne qui était sous le voile intégral en face d'elle était une chercheuse ?
Il vient d'utiliser
oui
le mot putassier,
oui
donc j'imagine
que... ce que je veux dire, ça peut être ambigu. Ça peut être ambigu, non, mais en tout cas...
Non, mais attendez, vous comprenez qu'on a envie de savoir. Si
oui, mais je comprends que vous ayez envie de savoir, mais... Je comprends que vous ayez envie de savoir, mais...
On n'a pas envie de révéler ces secrets.
Ça ne devrait pas être des secrets. Ça ne devrait pas être des secrets. Je veux dire, les méthodes des sociologues, elles doivent être sur...
Alors, je vais vous dire, non, de toute façon, très clairement, soit on travaille sur de larges échantillons, on peut travailler avec des questionnaires, mais quand on travaille avec des questionnaires, on sait que les gens qui répondent aux questionnaires, ils réfléchissent. Donc c'est pas forcément des informations. On sait qu'ils se contraignent.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chercheuse qui met le voile intégral et qui va poser des questions.
Eh bien, voilà, c'est ce qu'elle fonctionne comme ça, effectivement. Elle peut fonctionner comme ça. Mais en même temps, la question, je vais vous dire, la question, c'est synchroniquement, quand on fait une enquête sur un individu, par exemple comme un journaliste, qui est très bien, mais on enquête sur l'individu, il peut vous mentir parce que vous avez un entretien avec lui. Bon. La question du sociologue, c'est que lui, alors là, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'avoir un entretien, il en a plusieurs et pendant des mois et des mois. Donc, au bout d'un moment, il y a des dissonances cognitives qui apparaissent parce que les gens ne peuvent pas être parfaitement dans leur... Et c'est à partir de ces dissonances cognitives qu'on arrive à savoir ce qui se passe vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Il faut voir quand même que c'est un milieu fermé. Je peux en parler sur les femmes. Je suis en train de préparer, comme je vous disais, un livre sur les femmes de djihadistes. Bon, moi, en plus, c'est sur la cellule, on va dire, Kouachi Koulibaly. Donc, c'est un périmètre très restreint et assez chaud en raison de l'actualité. Je fais un livre sur lequel je vais brosser des portraits d'une quinzaine de femmes. Il n'y en a aucune qui accepte de me parler, mais il est hors de question.
Vous pouviez vous y attendre.
Je m'y attendais, j'avais prévenu l'éditrice. Et après, on travaille en cercle concentrique,
etc. Comment, alors ?
Eh ben, alors déjà, j'ai leur déposition au sein de la police. J'ai récupéré, je crois que j'ai travaillé sur 6 ou 8 dossiers d'instruction, y compris des choses qui ne sont pas sur le terrorisme, mais où l'une ou deux ont pu être interrogées des fois, ou avoir des écoutes, parce qu'il y a aussi les écoutes, où là, c'est des choses où elles parlent librement. Donc, ça me permet. Donc là, ça, c'est un travail de rat de bibliothèque, de fourmis. Après, je vais voir les services de renseignement, les forces de l'État, mais je ne suis pas de ces journalistes qui travaillent que d'un côté de la barrière.
Donc.
Et après, bah, je vais voir, j'ai quelques-uns, alors je ne vais pas vous dire, j'en ai pas 10, hein, parce que mes quelques islamistes qui me parlent, c'est 2, 3, 4, de temps en temps, hein, c'est pas non plus, mais qui sont en lien avec ces gens-là, qui ont pu en connaître 1, 2... D'ailleurs, eux-mêmes ne les connaissent pas vraiment, parce que vu que il y a la séparation, en fait, ils sont avec les Kouachi, avec les Koulibaly, avec d'autres, et ils parlent. Après, je vais voir aussi du porte-à-porte ce qu'on fait, ce qu'on a tous fait dans notre métier. C'est les voisins, c'est des gens dans des instituts qui vont travailler avec eux ou leurs anciens employeurs. Et voilà, et on travaille
en cercle. Vous essayez de croiser les sources, quoi, entre d'une part les sources policières et judiciaires, et d'autre part, voilà.
Le terrain, ce qui est notre métier de base,
mais par exemple. Là où je suis d'accord avec Raphaël, c'est que pour que les gens se confient, quand on se présente avec une étiquette qui est tout à fait identifiable, ils vous racontent quasiment rien. Je vous donne un exemple très concret. Récemment, on tourne un film en ce moment pour une chaîne américaine, un documentaire qui sera diffusé cette année, plus tard dans l'année. Et on a voulu savoir, on a voulu comprendre les motivations des passeurs en Turquie, par exemple. Alors, on fait la traversée avec eux, mais avant la traversée, moi, je ne me suis pas fait passer pour un journaliste, que ce que j'ai dit. Je me suis fait passer pour un réfugié syrien. Voilà. Et donc, je lui ai parlé en arabe, etc. J'avais évidemment une caméra cachée. Moi qui bannis l'usage de la caméra cachée, je n'avais pas d'autre choix. Et là, je peux vous garantir qu'il va se confier beaucoup plus. Il nous dit notamment, vous savez, vous inquiétez pas, parce que moi, je lui dis que j'ai peur. Et c'est ce qu'il me dit, il me dit, vous inquiétez pas. La patronne du réseau, c'est la chef de la police de la ville que je n'aimerais pas en Turquie.
Voilà. Face caméra, il aurait eu du mal à vous le dire.
Voilà, exactement. Oui,
oui. Vous vouliez faire un
juste un petit complément méthodologique. C'est-à-dire que, en fait, on procède aussi de façon très simple, c'est-à-dire avec des informations dont tout le monde dispose, mais en cherchant des régularités que, par contre, tout le monde peut-être ne cherche pas. On va prendre les profils des gens qui ont effectivement commis des attentats, qui sont plus ou moins connus, en essayant d'approfondir, chercher des régularités. Et ensuite, on va essayer de voir si ça correspond.
Mais leur profil, quoi, sur les documents judiciaires.
Oui, ce qu'on a, sur les documents judiciaires, sur le passage, par exemple, chez des psychiatres, chez le frère Kouachi, et donc en regardant le compte-rendu, essayant de reconstituer leur biographie, et de voir si, par contre, des individus sur lesquels on a enquêté, qui ne sont pas des terroristes a priori, qui peuvent être fondamentalistes ou autres, si ça correspond. Et donc, on essaye de faire des liens. C'est là où, par exemple, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout aux fondamentalistes, au développement du fondamentaliste actuel, avec des individus qui n'ont pas la même biographie, qui ne font pas les mêmes choix, qui ne fonctionnent pas de la même manière, qui ne passent pas par les mêmes processus. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est simple.
Alors, le dernier mystère, peut-être le mystère le plus, le plus insondable, c'est celui des kamikazes, bien sûr. C'est-à-dire, c'est celui de ces gens qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour la cause. Et le film que vous avez réalisé se termine sur une scène.
Oui, comme je le rappelle, ce que je disais en introduction, donc ça fait un petit peu loin. Vous avez passé 9 jours à Alep, en Syrie, et dans les environs. Vous avez suivi un groupe de djihadistes, vous avez suivi les combats, mais vous avez suivi aussi leur vie quotidienne. Et vous avez suivi également le parcours d'un des hommes qui s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture d'explosifs, comme on le voit justement à la toute fin de votre documentaire, donc au 8e ou 9e jour, enfin 8e jour. Et c'était diffusé sur le site spicy.com, on regarde.
L'épouse d'Abou Layef est là, elle aussi. Image volée d'une intimité qu'on ne montre jamais. Mais ce qu'elle ignore, c'est que dans 48 heures, son mari ne sera plus de ce monde. Depuis plusieurs semaines, les djihadistes sont bloqués à El Fariya, une petite bourgade à 70 km de Latakia. Le régime y a déployé les grands moyens, pilonnage par l'aviation et renforcement des effectifs militaires au sol. Et c'est cette tour au fond qui pose problème, à l'intérieur des snipers du régime. Pour la prendre, ils ont imaginé un plan. Abou Layef coordonne toutes les opérations. Mais nous sentons que quelque chose de spécial est en train de se préparer. L'émir nous révèle sa stratégie pour prendre la tour occupée par les snipers. Son idée, y pénétrer et ouvrir le feu sur les soldats ennemis. Et si cela ne suffit pas, il a un plan B. Se faire sauter. L'heure fatidique approche. Certains ont du mal à retenir leurs larmes. Dernière prière ensemble. La dernière image d'Abou Layef, la voici. Moins de 5 minutes avant qu'il ne pénètre dans l'immeuble où sont postés les snipers.
Allez, 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 allez. Akbar. Allahu Akbar.
Il finit par ouvrir le feu. Avant d'écoper lui-même d'une balle.
Alors ce combattant qui se sacrifie est un Syrien.
Un Syrien de 27 ans, un ancien prof de sport, voilà, qui a rejoint la cause djihadiste il y a à peu près 2-3 ans quand le régime de Bachar al-Assad multipliait très fréquemment, quasiment quotidiennement, dans la ville d'Alep notamment, la deuxième ville de Syrie, multipliait les bombardements. Et il a rejoint le groupe de ce chef de la brigade djihadiste que nous avons suivi.
Alors, cela dit, s'agissant d'un Syrien, je dirais que la chose est un peu plus compréhensible. C'est-à-dire, c'est des gens qui se battent pour leur terre, leur territoire, leur village, leur famille. Voilà, donc on comprend qu'ils soient prêts à aller jusqu'au bout. Cela dit, dans les combattants que vous avez suivis dans cette unité, alors qui n'est pas une unité de l'État islamique, hein, on est bien d'accord. C'est une autre formation.
C'est une unité qui s'appelle Amsal al-Raqida. Oui. Qui veut dire les partisans de la foi. Donc, ce sont des djihadistes qui sont, on va dire, assez majoritaires dans la région d'Alep, mais qui partagent idéologiquement quand même beaucoup de points communs avec l'État islamique. Oui.
D'accord. Alors, mais c'est, qui est donc une unité qui compte aussi des étrangers.
Qui compte. Il y a 80% de Syriens, une vingtaine, oui, 20% à peu près de combattants étrangers.
Qui viennent d'où ?
Il y a des Norvégiens, il y a des Français, des Maghrébins.
Alors pour rejoindre un peu la discussion qu'on a depuis le début de cette émission, vous avez pu discuter un peu avec eux de leur motivation.
Avec les étrangers, c'est très compliqué.
Ah bon ?
Oui, c'est pas. Pourquoi ? Bah parce que certains d'entre eux, on l'imagine en tout cas, envisagent peut-être un retour. Ceux qui n'ont pas pour idée de se faire exploser, en tout cas sur place, ou qui ambitionnent peut-être de se faire exploser dans leur pays d'origine. Comme la France, par exemple. Et puis, c'est très délicat. Parce que, voilà, ils sont récemment arrivés, quand même. Ils se retrouvent face à des journalistes qui leur parlent dans la même langue. Eux-mêmes sont.
Dans leur langue.
Oui, dans leur langue.
C'est-à-dire en français.
Oui, par exemple, oui. Si on voulait s'adresser à l'un d'eux en français. Voilà, ils sont. Et puis, ils sont gênés parce que.
Dans la mesure où vous êtes. Mais enfin, vous êtes là avec l'autorisation des chefs, quand même.
Bien sûr.
Ça ne facilite pas le.
Mais si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est un peu le parallèle aussi quand vous avez des checkpoints entre, par exemple, Alep et Idlib, vous avez cinquantaine de checkpoints. Systématiquement, quand vous voyez des hommes qui sont masqués, ceux qui mènent la garde devant ces checkpoints, vous pouvez vous dire à 90% de chance que ce sont des étrangers. Voilà. Et donc, leur mutisme.
Comment vous avez ça ?
D'abord parce qu'on nous l'a dit, et on nous l'a dit très facilement. On a essayé pour certains de leur parler quand c'était possible et qu'on n'était pas trop embêté sur les checkpoints d'essayer de leur parler. Et systématiquement, on nous a dit pas filmer d'abord. Alors on demande pourquoi, machin, on nous explique. Et puis ils disent non mais c'est des étrangers. Donc voilà.
Alors parallèlement au film, je voudrais vous préparer alors un livre qui racontera un peu les coulisses de votre tournage.
Avec Rabia, oui.
Voilà et un roman.
Et un roman.
Et un livre de fiction, donc qui portera sur quoi ?
Qui portera sur un parcours individuel d'un homme qui embrasse le djihad.
Et un Français ?
Un Français, oui. Un Français, pas de souche, hein, comme on l'appelle maintenant, parce qu'on les nomme maintenant en France, ce qui est une aberration, mais un Français qui n'a pas du tout le parcours traditionnel du petit djihadiste, selon ce que les médias disent ou selon ce que certains services de renseignement disent. À savoir, pardonnez-moi, il ne vient pas d'une banlieue. Il a eu plutôt une éducation brillante, il réussit. Mais ce qu'il fait basculer, comme n'importe quel autre, c'est un divorce. C'est la perte de son appartement, et puis la perte de son second appartement, et puis il bascule dans la drogue. Voilà. Et c'est ça qui le fait basculer.
Voilà. Et alors, vous êtes inspiré de quelqu'un que vous avez rencontré dans votre activité de journaliste ou...
Non, je vais vous dire sincèrement. Ce que je me suis dit, un peu, pour revenir avec notre ami à Philadelphie, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui se serait passé si moi, j'avais basculé ? Voilà. Et j'ai essayé d'imaginer.
Et ça, c'est une des questions que vous vous êtes posées aussi, Julien ? C'est-à-dire, de façon peut-être plus personnelle, est-ce que j'aurais pu basculer ? Et si oui, pourquoi ?
Je me la pose peut-être pas dans ces termes. En tout cas, ce qui est très important et ce qui est ma préoccupation de tous les instants en tant qu'écrivain, c'est que quand on vit en regardant la télévision, en lisant le journal, on vit l'événement, on vit l'histoire, on vit un attentat terroriste. En tant que partie prenante de l'opinion publique, en tant que spectateur, on a accès aux produits finis du djihadiste. On a accès qu'au monstre et on ne le perçoit que sous cette dimension-là, le tueur, celui qui a supprimé sa propre vie et qui a emporté la vie d'autres par la même occasion. Nous, ce sur quoi on travaille, en roman, en fiction, mais également en sociologie et dans le reportage, c'est la construction de ce personnage et comment on en arrive là. Alors c'est difficile à entendre quand il y a eu des attentats, quand des gens sont morts, quand des gens souffrent, quand les familles sont en deuil, etc. Mais il faut essayer d'entendre qu'il n'y a pas de monstre en soi, que le mal par nature ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'essence du mal djihadiste ou autre, et que à l'origine on a affaire à des individus qui effectivement sont comme vous et moi, qui peuvent être n'importe qui, mais qui ne sont pas par essence des individus monstrueux. Ce sont les circonstances de la vie. Alors on parle d'un divorce, on peut parler d'autres choses, ça peut être n'importe quelle circonstance de la vie à laquelle on peut réagir de manière rationnelle ou pas.
Alors, Julien Sudeau, je voudrais donner lecture d'un autre passage de votre livre. Alors, vous allez me dire qu'il a peut-être été celui qui a été le plus difficile à écrire. Donc, le héros, ce petit gars normand là, qui est recruté d'abord pour aller faire de la maintenance informatique au Mali, puis ensuite qui se retrouve dans le désert, et puis qui ensuite, voilà, on va pas raconter le livre, mais qui se retrouve vraiment au cœur d'une unité combattante de l'État islamique, finit par se retrouver dans la peau d'un bourreau. Alors, coïncidence encore troublante, et comme ce fameux personnage réel normand Maxime Auchard, dont vous ne vous êtes pas inspiré, mais enfin le parcours est quand même, les similarités de parcours sont quand même troublantes, et donc vous êtes dans sa tête d'exécuteur. À un moment, vous êtes dans sa tête d'exécuteur. J'ai bloqué ma respiration pour n'avoir plus en moi que le vide dont sont faites les brutes. Tout s'est figé, le ciel, la lumière, le souffle du vent. Je n'ai plus rien entendu. Je regardais droit devant moi. La lame a heurté quelque chose de dur. Alors j'ai serré plus fort le manche en imaginant que c'était ma chair qui s'ouvrait, mes os qui craquaient et mon sang qui coulait sur mon avant-bras. Je voulais mourir, mais je ne mourrais pas. Plus je serrais, plus je mettais de force dans ma main, plus la vie s'accrochait à moi comme une nausée. Comment on fait pour écrire ça? Enfin, je veux dire, comment on fait pour se mettre dans cette tête-là?
Il n'y a pas vraiment de secret de fabrication. Je pense que c'est une des fonctions de la littérature de se confronter à la naissance du mal. Et qui plus est, encore une fois, chez un individu ordinaire, la banalité du mal.
Farouk Atik nous disait à l'instant, je me suis imaginé ce qui se passerait si moi-même je basculais. Vous êtes imaginé ce qui se passerait si vous-même étiez dans le rôle du bourreau?
On est obligé d'en passer par là, et c'est forcément artificiel. On est dans le domaine de la fiction, donc j'ai pas fait l'expérience moi-même. On n'est pas du tout dans quelque chose de technique. C'est ça que je veux dire. On est dans l'ordre de quelque chose qui est impressionniste et par nature subjectif. On touche à ce moment-là à quelque chose qui est extrêmement mystérieux, puisque c'est le fait de donner la mort à quelqu'un d'autre. Et moi, je voulais raconter cette mise à mort comme si elle était en même temps un suicide. Il se trouve que mon personnage n'est pas un chat, il est exclusivement un bourreau et un exécuteur. Mais à chaque fois qu'il donne la mort à quelqu'un d'autre, c'est comme s'il se la donnait à lui-même. Et je pense que ce paramètre-là, ce paramètre psychologique, cette pulsion de mort est vraiment fondamentale pour comprendre les individus.
Je voudrais revenir une seconde sur « je me suis imaginé ce qui se passerait si moi-même je basculais ». C'est quelque chose que vous avez fait pour les besoins de ce roman, ou vous avez pu vous-même ressentir ce vertige-là, et je dirais que c'est pour exorciser ce vertige-là que vous avez ressenti le besoin de
d'écrire. J'ai ressenti énormément de vertige dans ma vie, mais pas celui-ci, très sincèrement, mais je m'intéresse depuis assez longtemps à ce qui peut faire basculer quelqu'un, et notamment la cause djihadiste. Et puis vous savez, il y a un écrivain sud-américain, Borges, qui disait quelque chose par rapport au nazisme. Pardonnez-moi, il disait le nazisme est en soi un fait mortel, un dépouillement du vieil homme qui est vicié pour revêtir le nouveau. Voilà. on a décidé de faire abstraction de soi-même et on devient quelqu'un d'autre, quelqu'un de neuf. Voilà. C'est ce que je me suis imaginé. On est dans un travail de littérature, uniquement de littérature.
Je voudrais quand même dire une chose sur cette question, c'est que finalement, quand on essaie de savoir ce qu'est un être humain, c'est un être qui se raconte, qui passe son temps à se raconter. Il passe son temps à se raconter par sa manière de s'habiller. Il se passe son temps à se raconter par même des lunettes particulières. D'ailleurs, on dit « Ah, ces lunettes sont bien parce qu'elles me ressemblent. » Elles ressemblent à qui ? Elles ressemblent à moi, ce que j'appelle l'être narratif. Donc, on voit bien que le bascule, c'est quoi ? Le bascule, c'est quand il y a une rupture dans la narration de soi. C'est ça, le bascule. Le divorce, c'est quoi ? C'est une rupture dans la narration de soi. Je me racontais comme père de famille, qui était sur le point de lancer une famille. Et donc, plus on est fragile par rapport à cette narration, donc plus on est un post-adolescent qui n'a pas réussi à se construire, plus on peut glisser facilement. Alors, moi, j'ai réfléchi justement...
Il y a des post-adolescents très brillants.
Exactement, voilà. Exactement. Très clairement, et je l'ai déjà dit, je crois, dans une émission, donc je n'hésite pas à le dire, moi, au sortir de mon adolescence, 18, 19 ans, j'aurais très bien pu tomber dans le djihadisme avec un désir de vengeance énorme parce que je me sentais extrêmement frustré. Et là, on voit bien...
Vous avez pu tomber dans le djihadisme.
Oui, tout à fait, parce que c'était pas l'époque.
Mais vous avez pensé à l'époque ?
Non, absolument pas.
Mais c'est aujourd'hui, rétrospectivement.
Vous dites... Exactement. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une rupture narrative, il n'y a pas de balance entre « Ah, ça, c'est le bien, parce que c'est le bien social, etc. » À un moment donné, on peut se donner... On a le sentiment que tout est complot autour de nous. On écoute Arrêt sur image à la télévision et on se dit, de toute façon, ça, c'est un complot aussi. Et quelque part, on a besoin... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout devient... Tout fait partie d'un décor négatif. Ou à un moment donné, on va plonger et on a le sentiment que c'est bien. On va construire une narration de soi en négatif. Et là... Tout est possible. On peut aller jusqu'au meurtre, on peut faire toute une série de choses sans même se rendre compte de ce que ça peut représenter du point de vue d'une sorte de morale qui nous...
Parce qu'on a dépassé ce stade depuis longtemps.
Exactement. Ça, je pense que cette dimension narrative, elle n'a pas été assez soulignée aujourd'hui. Et le problème, c'est que la contre-narration de la guerre de civilisation, que j'essaye de combattre, c'est une contre-narration qui nourrit le désir de djihad chez des individus qui, quand ils entendent quelqu'un comme Manuel Valls qui dit « je vais faire ceci, je vais faire cela, je lâche rien », etc. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait que nourrir chez des individus qui sont déjà en rupture de narration.
Parlons même pas du débat sur la déchéance de nationalité.
Ne parlons même pas. Alors le débat sur la déchéance de nationalité...
Non, on a dit qu'on n'en parlait pas.
Voilà, bon, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais c'est pire que tout du point de vue du renvoi symétrique des narrations. C'est pire que tout.
Justement, pour rebondir, l'islam radical offre, alors, à la fois une porte de sortie et ses facilités, on l'a déjà détaillé, on ne va pas y revenir, mais aussi une manière de réécrire son passé, c'est-à-dire et qui justifie le chaïd, les attentats suicides. Oui, parce qu'on se focalise, et c'est un peu notre faute, nous médias, sur les 72 ou 74, vous m'excuserez cette approximation, vierges. Pour moi, il y a un point qui est beaucoup plus important, c'est l'intercession. C'est le fait que quand vous commettez un attentat suicide, que vous faites quelque chose qui est reconnu, vous allez avoir 72 ou 74 cartes, c'est le même nombre, je schématise, que vous allez distribuer à vos proches, où vous leur évitez le purgatoire, et vous arrivez, c'est pas que vous qui arrivez aux côtés d'Allah, c'est tous vos proches. Et pour ces jeunes, ou plus ou moins jeunes, qui ont eu des problèmes dans leur enfance, qui peuvent avoir soit eu des problèmes avec leurs parents, qui ont été le mouton noir de leur famille parce que, justement, ils ont vrillé dans la délinquance ou directement sur le djihad. Quelque part, il y a dans ceux qui commettent des attentats suicides, en tout cas en France, ou qui ont commis des attentats en France, il y a cette volonté de se dire je rachète mes fautes, mon péché originel vis-à-vis de mes proches. Et 72 ou 74 personnes vous permettent de ratisser assez large, quoi.
Très bien. Mais écoutez, je veux vous remercier tous les quatre. On a commencé cette émission dans l'incertitude et au fond, il n'y a pas vraiment d'explication. On peut chercher à droite, à gauche, on ne la trouve jamais vraiment. Il me semble qu'on termine cette émission avec quelque chose qui ressemble non pas à une explication, mais en tout cas, peut-être une manière de cerner un aspect inattendu de ce phénomène de la radicalisation autour de cette question de la narration, de la rupture narrative et du désir qu'on peut parfois avoir de se réinventer, si on peut dire les choses comme ça. Merci à tous les trois. Je crois qu'on a perdu la liaison Skype avec Julien Suodo, mais c'est pas grave, on avait fini l'émission. Donc merci si vous nous entendez encore. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.